Jules Verne, l'île à hélice. Deuxième partie, chapitre 8. Fidji et Fidjiens. Combien dis-tu ? Demande Pinchina.
255, mes amis, répond Frasquelin.
Oui, on compte 255 îles et îlots dans l'archipel des Fidji.
En quoi cela nous intéresse-t-il ? Répond Pinchina. Du moment que le joyau du Pacifique ne doit pas y faire 255 relâches.
Tu ne sauras jamais ta géographie, proclame Frasquelin.
Et toi, tu la sais trop, réplique son Altesse.
Et c'est toujours de cette sorte qu'est accueilli le deuxième violon, lorsqu'il veut instruire ses récalcitrants camarades.
Cependant, Sébastien Zorn, qui l'écoutait plus volontiers, se laisse amener devant la carte du casino, sur laquelle le point est reporté chaque jour. Il est aisé d'y suivre l'itinéraire de Standard Island, depuis son départ de la baie Madeleine. Cet itinéraire forme une sorte de grand S, dont la boucle inférieure se déroule jusqu'au groupe des Fidji.
Frasquelin montre alors au violoncelliste cet amoncellement d'îles, découvertes par Tasman, en 1643. Un archipel compris d'une part entre le 16e et le 20e parallèle sud, et de l'autre entre le 174e méridien ouest et le 179e méridien est. Ainsi, nous allons engager notre encombrante machine à travers ces centaines de cailloux semés sur sa route, observe Sébastien Zorn.
Oui, mon vieux compagnon de corde, répond Frasquelin.
Et si tu regardes avec quelque attention,
et en fermant la bouche, ajoute Pinchina.
Pourquoi ?
Parce que, comme dit le proverbe, en close bouche n'entre pas mouche.
Et de quelle mouche veux-tu parler ?
De celle qui te pique, quand il s'agit de déblatérer contre Standard Island.
Sébastien Zorn hausse dédaigneusement les épaules, et revenons à Frasquelin.
Tu disais ?
Je disais que pour atteindre les deux grandes îles de Viti-le-Voo et de Vanua-le-Voo, il existe trois passes qui traversent le groupe oriental, la passe Nanuku, la passe Lakemba et la passe Oneata.
Sans compter la passe où l'on se fracasse en mille pièces, s'écrie Sébastien Zorn.
Cela finira par arriver. Est-ce qu'il est permis de naviguer dans de pareilles mers avec toute une ville et toute une population dans cette ville ?
Non, cela est contraire aux lois de la nature.
La mouche, riposte Pinchina.
La voilà, la mouche à Zorn, la voilà.
En effet, toujours ces fâcheux pronostics dont l'entêté violoniste ne veut pas démordre.
Au vrai, en cette portion du Pacifique, c'est comme une barrière que le premier groupe des Fidji oppose aux navires arrivant de l'Est.
Mais que l'on se rassure, les passes sont assez larges pour que le commodore Simcoe puisse y hasarder son appareil flottant, sans parler de celles indiquées par Frasquelin. Parmi ces îles, les plus importantes, en dehors des deux Levu, situées à l'ouest, sont Ono Nloga, Kandabu, etc. Une mer est enfermée entre ces sommets émergés des fonds de l'océan, la mer de Koro, et cet archipel, entrevu par Cook, visité par Bligh en 1789, par Wilson en 1792, est si minutieusement connu, c'est que les remarquables voyages de Dumont-Durville en 1828 et en 1833, ceux de l'américain Wilkes en 1839, de l'anglais Erskine en 1853, puis l'expédition du Herald, capitaine du Ram, de la marine britannique, ont permis d'établir les cartes avec une précision qui fait honneur aux ingénieurs hydrographes. Donc, aucune hésitation chez le commodore Simcoe. Venant du sud-est, il emboucle la passe Vulanga, laissant sur bâbord l'île de ce nom, une sorte de galette entamée et servie sur son plateau de corail. Le lendemain, Standard Island donne dans la mer intérieure, qui est protégée par ses solides chaînes sous-marines contre les grandes houles du large. Il va sans dire que toute crainte n'est pas encore éteinte relativement aux animaux féroces apparus sous le couvert du pavillon britannique. Les milliardaires se tiennent toujours sur le qui-vive. D'incessantes battues sont organisées à travers les bois, les champs et les eaux. Aucune trace de fauve n'est relevée. Pas de rugissement, ni le jour ni la nuit. Pendant les premiers temps, quelques Timorés se refusent à quitter la ville pour s'aventurer dans le parc et la campagne. Ne peut-on craindre que le steamer ait débarqué une cargaison de serpents, comme à la Martinique, et que les taillis en soient infestés ? Aussi une prime est-elle promise à quiconque s'emparerait d'un échantillon de ces reptiles. On les paierait à son poids d'or, ou suivant sa longueur à tant le centimètre, et pour peu qu'il ait la taille d'un boa, cela fera une belle somme. Mais comme ces recherches n'ont pas abouti, il y a lieu d'être rassuré. La sécurité de Standard Island est redevenue entière. Les auteurs de cette machination, quels qu'ils soient, en auront été pour leur bête.
Le résultat le plus positif, c'est qu'une réconciliation complète s'est effectuée entre les deux sections de la ville. Depuis l'affaire Walter Coverley et l'affaire Coverley-Tanguardon, les familles tribordaises et babordaises se visitent, s'invitent, se reçoivent. Réception sur réception, fête sur fête. Chaque soir, bal et concert chez les principaux notables, plus particulièrement à l'hôtel de la 19e avenue et à l'hôtel de la 15e. Le quatuor concertant peut à peine y suffire. D'ailleurs, l'enthousiasme qu'il provoque ne diminue pas, bien au contraire. Enfin, la grande nouvelle se répand un matin, alors que Standard Island bat de ses puissantes hélices la surface tranquille de cette mer de coraux. Monsieur James Tanguardon s'est rendu officiellement à l'hôtel de Monsieur Nat Coverley et lui a demandé la main de Miss Day Coverley, sa fille, pour son fils, Walter Tanguardon. Et Monsieur Nat Coverley a accordé la main de Miss Day Coverley, sa fille, à Walter Tanguardon, fils de Monsieur James Tanguardon. La question de dot n'a soulevé aucune difficulté. Elle sera de 200 millions pour chacun des jeunes époux. Ils auront de quoi vivre, même en Europe, fait judicieusement remarquer Pinchina. Les félicitations arrivent de toutes parts aux deux familles. Le gouverneur Cyrus Bickerstaff ne cherche point à cacher son extrême satisfaction. Grâce à ce mariage, disparaissent les causes de rivalité si compromettantes pour l'avenir de Standard Island. Le roi et la reine de Malécarly sont des premiers à envoyer leurs compliments et leurs vœux au jeune ménage. Les cartes de visite, imprimées en or sur aluminium, pleuvent dans la boîte des hôtels. Les journaux font chronique sur chronique à propos des splendeurs qui se préparent, et telles qu'on n'en aura jamais vues, ni à Milliard City, ni en aucun autre point du globe. Des câblegrammes sont expédiés en France, en vue de la confection de la corbeille. Les magasins de nouveautés, les établissements des grands modistes, les ateliers des grands faiseurs, les fabriques de bijouterie et d'objets d'art reçoivent d'invraisemblables commandes. Un steamer spécial qui partira de Marseille viendra par Suez et l'océan Indien apporter ses merveilles de l'industrie française. Le mariage a été fixé à 5 semaines de là, au 27 février. Du reste, mentionnons que les marchands de Milliard City auront leur part de bénéfices dans l'affaire. Ils doivent fournir leur contingent à cette corbeille nuptiale, et rien qu'avec les dépenses que vont s'imposer les nababs de Standard Island, il y aura des fortunes à réaliser. L'organisateur tout indiqué de ces fêtes, c'est le surintendant, Calixtus Munbar. Il faut renoncer à décrire son état d'âme lorsque le mariage de Walter Tanguardon et de Miss Day Coverley a été déclaré publiquement. On sait s'il le désirait, s'il y avait poussé. C'est la réalisation de son rêve, et comme la municipalité entend lui laisser carte blanche, soyez certain qu'il sera à la hauteur de ses fonctions en organisant un ultra-merveilleux festival. Le commodore Simcoe fait connaître par une note aux journaux qu'à la date choisie pour la cérémonie nuptiale, l'île à hélices se trouvera dans cette partie de mer comprise entre les Fidji et les Nouvelles-Hébrides. Auparavant, elle va rallier Viti Levu, où la relâche doit durer une dizaine de jours, la seule que l'on se propose de faire au milieu de ce vaste archipel. Navigation délicieuse. À la surface de la mer se jouent de nombreuses baleines. Avec les 1000 jets d'eau de leurs évents, on dirait un immense bassin de Neptune, en comparaison duquel celui de Versailles n'est qu'un joujou d'enfant, fait observer Iverness. Mais aussi, par centaines, apparaissent d'énormes requins qui escortent Standard Island comme ils suivraient un navire en marche. Cette portion du Pacifique limite la Polynésie, qui confine à la Mélanésie, où se trouve le groupe des Nouvelles-Hébrides. Elle est coupée par le 180e degré de longitude, ligne conventionnelle que décrit le méridien de partage entre les deux moitiés de cet immense océan. Lorsqu'ils attaquent ce méridien, les marins venant de l'est effacent un jour du calendrier, et inversement, ceux qui viennent de l'ouest en ajoutent un. Sans cette précaution, il n'y aurait plus de concordance des dates. L'année précédente, Standard Island n'avait pas eu à faire ce changement, puisqu'elle ne s'était avancée dans l'ouest au-delà du dit méridien. Mais cette fois, il y a lieu de se conformer à cette règle, et puisqu'elle vient de l'est, le 22 janvier se change en 23 janvier. Des 255 îles qui composent l'archipel des Fidji, une centaine seulement sont habitées. La population totale ne dépasse pas 128 000 habitants, densité faible pour une étendue de 21 000 km². De ces îlots, simples fragments d'atoll ou sommets de montagnes sous-marines, ceints d'une frange de corail, il n'en est pas qui mesure plus de 150 km superficiels. Ce domaine insulaire n'est à vrai dire qu'une division politique de l'Australasie, dépendant de la couronne depuis 1874, ce qui signifie que l'Angleterre l'a bel et bien annexée à son empire colonial. Si les Fidjiens se sont enfin décidés à se soumettre au protectorat britannique, c'est qu'en 1859, ils ont été menacés d'une invasion tongienne, à laquelle le Royaume-Uni a mis obstacle par l'intervention de son trop fameux Pritchard, le Pritchard de Tahiti. L'archipel est présentement divisé en 17 districts, administrés par des sous-chefs indigènes, plus ou moins alliés à la famille souveraine du dernier roi, Takumbu. Est-ce la conséquence du système anglais ? Demande le commodore Simcoe, qui s'entretient à ce sujet avec Frascolin. Et en sera-t-il des Fidji comme il en a été de la Tasmanie ? Je ne sais. Mais fait certain, c'est que l'indigène tend à disparaître. La colonie n'est point en voie de prospérité, ni la population en voie de croissance. Et ce qui le démontre, c'est l'infériorité numérique des femmes par rapport aux hommes. C'est en effet l'indice de l'extinction prochaine d'une race, répond Frascolin. Et en Europe, il y a déjà quelques États que menace cette infériorité. Ici d'ailleurs, reprend le commodore, les indigènes ne sont que de véritables serfs, autant que les naturels des îles voisines, recrutés par les planteurs pour les travaux de défrichement. En outre, la maladie les décime, et en 1875, rien que la petite vérole en a fait périr plus de 30 000. C'est pourtant un admirable pays, comme vous pourrez en juger, cet archipel des Fidji. Si la température est élevée à l'intérieur des îles, du moins est-elle modérée sur le littoral, très fertile en fruits et en légumes, en arbres, cocotiers, bananiers, etc. Il n'y a que la peine de récolter les ignames, les taros et la moelle nourricière du palmier, qui produit le sagou. Le sagou ? S'écrie Frascolin. Quel souvenir de notre Robinson suisse ! Quant aux cochons, aux poules, continue le commodore Simcoe, ces animaux se sont multipliés depuis leur importation, avec une prolificence extraordinaire. De là toute facilité de satisfaire aux besoins de l'existence. Par malheur, les indigènes sont enclins à l'indolence, au farniente, bien qu'ils soient d'intelligence très vive, d'humeur très spirituelle. Et quand ils ont tant d'esprit, dit Frascolin, les enfants vivent peu, répond le commodore Simcoe. En fait, tous ces naturels, polynésiens, mélanésiens et autres, sont-ils différents des enfants ? En s'avançant vers Viti Levu, Standard Island relève plusieurs îles intermédiaires, telles Vanuatu, Moala, Nga, censées arrêter. De toutes parts cinglent, en contournant son littoral, des flottilles de ces longues pirogues à balancier de bambou entrecroisés, qui servent à maintenir l'équilibre de l'appareil et à loger la cargaison. Elles circulent, elles évoluent avec grâce, mais ne cherchent à entrer ni à tribord arbor, ni à bâbord arbor. Il est probable qu'on ne leur eût pas permis, étant donné l'assez mauvaise réputation des Fidjiens. Ces indigènes ont embrassé le christianisme, il est vrai. Depuis que les missionnaires européens se sont établis à Lukumba, en 1835, ils sont presque tous protestants wesleyens, mélangés de quelques milliers de catholiques. Mais auparavant, ils étaient tellement adonnés aux pratiques du cannibalisme qu'ils n'ont peut-être pas perdu tout à fait le goût de la chair humaine. Au surplus, c'est affaire de religion. Leur dieu aimait le sang. La bienveillance était regardée dans ces peuplades comme une faiblesse, et même un péché. Manger un ennemi, c'était lui faire honneur. L'homme que l'on méprisait, on le faisait cuire, on ne le mangeait pas. Les enfants servaient de mets principal dans les festins, et le temps n'est pas si éloigné où le roi Takumbo aimait à s'asseoir sous un arbre dont chaque branche supportait un membre humain réservé à la table royale. Quelquefois même une tribu, et cela est arrivé pour celle des Nuloka, à Viti Levu, près Namosi, fut dévorée tout entière, moins quelques femmes, dont l'une a vécu jusqu'en 1880. Décidément, si Panchina ne rencontre pas sur l'une quelconque de ces îles des petits-fils d'anthropophages ayant conservé les vieilles coutumes de leur grand-père, il devra renoncer à jamais demander un reste de couleur locale à ces archipels du Pacifique. Le groupe occidental des Fidji comprend deux grandes îles, Viti Levu et Vanuatu, et deux îles moyennes, Kandavu et Taviuni. C'est plus au nord-ouest que gisent les îles Vasava et que s'ouvre la passe de l'île Ronde par laquelle le commodore Simcoe doit sortir en relevant sur les nouvelles hybrides. Dans l'après-midi du 25 janvier, les hauteurs de Viti Levu se dessinent à l'horizon. Cette île montagneuse est la plus considérable de l'archipel. d'un tiers plus étendue que la Corse, soit 10 645 km². Ces cimes pointent à 1200 et 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce sont des volcans éteints, ou du moins endormis, et dont le réveil est généralement fort maussade. Viti-Levu est relié à sa voisine du nord, Vanua-Levu, par une barrière sous-marine de récifs qui émergeait sans doute à l'époque de formation tellurique. Au-dessus de cette barrière, Standard Island pouvait se hasarder sans péril. D'autre part, au nord de Viti-Levu, les profondeurs sont évaluées entre 4 et 500 mètres, et au sud entre 500 et 2000. Autrefois, la capitale de l'archipel était Levuka, dans l'île d'Ovalo, à l'est de Viti-Levu. Peut-être même les comptoirs, fondés par des maisons anglaises, y sont-ils plus importants encore que ceux de Suva, la capitale actuelle dans l'île de Viti-Levu. Mais ce port offre des avantages sérieux à la navigation, étant situé à l'extrémité sud-est de l'île, entre deux deltas, dont les eaux arrosent largement ce littoral. Quant au port d'attache des paquebots en relation avec les Fidji, il occupe le fond de la baie de Ngalao, au sud de l'île de Kandava, le gisement qui est le plus voisin de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, des îles françaises de la Nouvelle-Calédonie et de la Loyauté. Standard Island vient relâcher à l'ouverture du port de Suva. Les formalités sont remplies le jour même et la libre pratique est accordée. Comme ces visites ne peuvent être qu'une source de bénéfices, autant pour les colons que pour les indigènes, les milliardaires sont assurés d'un excellent accueil dans lequel existe peut-être plus d'intérêt que de sympathie. Ne pas oublier d'ailleurs que les Fidji relèvent de la couronne et que les rapports sont toujours tendus entre le Foreign Office et la Standard Island Company, si jalouse de son indépendance. Le lendemain, 26 janvier, les commerçants de Standard Island, qui ont des achats ou des ventes à effectuer, se font mettre à terre dès les premières heures. Les touristes, et parmi eux nos Parisiens, ne sont point en retard. Bien que Pinchina et Iverness plaisantent volontiers Frascolin, l'élève distingué du commodore Simcoe, sur ses études ethno-rasanto-géographiques, comme dit son Altesse, il n'en profite pas moins de ses connaissances. Aux questions de ses camarades sur les habitants de Viti-Levu, sur leurs coutumes, leurs pratiques, le deuxième violon a toujours quelques réponses instructives. Sébastien Zorn ne dédaigne pas de l'interroger à l'occasion, et tout d'abord lorsque Pinchina apprend que ces parages étaient, il n'y a pas longtemps, le théâtre principal du cannibalisme, il ne peut retenir un soupir en disant « Oui, mais nous arrivons trop tard, et vous verrez que ces Fidjiens, énervés par la civilisation, en sont tombés à la fricassée de poulet et au pied de porc à la Saint-Menloul. » Anthropophage, lui crie Frascolin, tu mériterais d'avoir figuré sur la table du roi Takumbo. Hé, une entrecôte de Pinchina à la bordelaise. Voyons, réplique Sébastien Zorn, si nous perdons notre temps à des réclamations oiseuses, nous ne réaliserons pas le progrès par la marche en avant, s'écrie Pinchina. Voilà une phrase comme tu les aimes, n'est-ce pas, mon vieux violoncelluloïdiste? Eh bien, en avant-marche. La ville de Suva, bâtie sur la droite d'une petite baie, éparpille ses habitations au revers d'une colline verdoyante. Elle a des quais disposés pour l'amarrage des navires, des rues garnies de trottoirs planchéiés, ni plus ni moins que les plages de nos grandes stations balnéaires. Les maisons en bois, à rez-de-chaussée, parfois mais rarement avec un étage, sont gaies et fraîches. Aux alentours de la ville, des cabanes indigènes montrent leurs pignons relevés en cornes et ornés de coquillages. Les toitures, très solides, résistent aux pluies d'hiver, de mai à octobre, qui sont torrentielles. En effet, en mars 1871, à ce que raconte Frascolin, très ferré sur la statistique, Mbua, située dans l'est de l'île, a reçu en un jour 38 cm d'eau. Viti-Levu, non moins que les autres îles de l'archipel, est soumise à des inégalités climatériques, et la végétation diffère d'un littoral à l'autre. Du côté exposé au vent alisé du sud-est, l'atmosphère est humide et des forêts magnifiques couvrent le sol. De l'autre côté s'étendent d'immenses savanes, propres à la culture. Toutefois, on observe que certains arbres commencent à dépérir, entre autres le sandal, presque entièrement épuisé, et aussi le dakua, ce pin spécial aux Fidji. Cependant, en ses promenades, le quatuor constate que la flore de l'île est d'une luxuriance tropicale. Partout des forêts de cocotiers et de palmiers, aux troncs tapissés d'orchidées parasites, des massifs de cassus harinés, de pandanus, d'acacias, de fougères arborescentes, et dans les parties marécageuses, nombre de ces palétuviers dont les racines serpentent hors de terre. Mais la culture du coton et celle du thé n'ont point donné les résultats que ce climat si puissant permettait d'espérer. En réalité, le sol de Viti-le-Vou, ce qui est commun dans ce groupe, argileux et de couleur jaunâtre, n'est formé que de cendres volcaniques, auxquelles la décomposition a donné des qualités productives. Quant à la faune, elle n'est pas plus variée que dans les divers parages du Pacifique. Une quarantaine d'espèces d'oiseaux, perruches et serins acclimatés, des chauves-souris, des rats qui forment légion, des reptiles d'espèces non venimeuses, très appréciés des indigènes au point de vue comestible, des lézards à n'en savoir que faire, et des cancrelats répugnants, d'une voracité de cannibale. Mais de fauves, il ne s'en trouve point, ce qui provoque cette boutade de Pinchina. Notre gouverneur, Cyrus Bickerstaff, aurait dû conserver quelques couples de lions, de tigres, de panthères, de crocodiles, et déposer ses ménages carnassiers sur les Fidji. Ce ne serait qu'une restitution puisqu'elles appartiennent à l'Angleterre. Ces indigènes, mélange de races polynésiennes et mélanésiennes, présentent encore de beaux types, moins remarquables cependant qu'aux Samoa et aux Marquises. Les hommes à teint cuivré, presque noir, la tête couverte d'une chevelure toisonnée, parmi lesquels on rencontre de nombreux métis, sont grands et vigoureux. Leur vêtement est assez rudimentaire, le plus souvent un simple pagne, ou une couverture, faite de cette étoffe indigène, le mazi, tirée d'une espèce de mûrier, qui produit aussi le papier. À son premier degré de fabrication, cette étoffe est d'une parfaite blancheur. Mais les Fidjiens savent l'atteindre, la barioler, et elle est demandée dans tous les archipels de l'Est Pacifique. Il faut ajouter que ces hommes ne dédaignent pas de revêtir, à l'occasion, de vieilles défroques européennes, échappées des friperies du Royaume-Uni ou de l'Allemagne. C'est matière à plaisanter, pour un Parisien, de voir de ces Fidjiens engoncés d'un pantalon déformé, d'un pateleux hors d'âge, et même d'un habit noir, lequel, après maintes phases de décadence, est venu finir sur le dos d'un naturel de Viti-le-Vou. « Il y aurait à faire le roman d'un de ces habits-là, » observe Vernès. « Un roman qui risquerait de finir en veste, » répond Pinchina. Quant aux femmes, ce sont la jupe et le caraco de Mazi qui les habillent, d'une façon plus ou moins décente, en dépit des sermons wesleyens. Elles sont bien faites, et avec l'attrait de la jeunesse, quelques-unes peuvent passer pour jolies. Mais quelle détestable habitude elles ont, les hommes aussi, d'enduire de chaud leurs chevelures noires, devenu une sorte de chapeau calcaire, qui a pour but de les préserver des insolations. Et puis, elles fument, autant que leurs époux et frères, ce tabac du pays qui a l'odeur de foin brûlé. Et lorsque la cigarette n'est pas mâchonnée entre leurs lèvres, elle est enfilée dans le lobe de l'oreille, à l'endroit où l'on voit le plus communément en Europe des boucles de diamants et de perles. En général, ces femmes sont réduites à la condition d'esclaves, chargées des plus durs travaux du ménage. Et le temps n'est pas éloigné où, après avoir peiné pour entretenir l'indolence de leur mari, on les étranglait sur sa tombe. À plusieurs reprises pendant les 3 jours qu'ils ont consacrés à leur excursion autour de Suva, nos touristes essayèrent de visiter des cases indigènes. Ils en furent repoussés, non point par l'inhospitalité des propriétaires, mais par l'abominable odeur qui s'en dégage. Tous ces naturels frottés d'huile de coco, leur promiscuité avec les cochons, les poules, les chiens, les chats, dans ces nauséabondes paillettes, l'éclairage suffocant, obtenu par le brûlage de la gomme résineuse du damana. Non, il n'y avait pas moyen d'y tenir. Et d'ailleurs, après avoir pris place au foyer fidjien, n'aurait-il pas fallu, sous peine de manquer aux convenances, accepter de tremper ses lèvres dans le bol de cava, la liqueur fidjienne par excellence. Bien que, pour être tiré de la racine desséchée du poivrier, ce cava pimenté soit inacceptable au palais européen, il y a encore la manière dont on le prépare. N'est-elle pas pour exciter la plus insurmontable répugnance? On ne le moue pas, ce poivre, on le mâche, on le triture entre ses dents, puis on le crache dans l'eau d'un vase, et on vous l'offre, avec une insistance sauvage qui ne permet guère de le refuser. Et il n'y a plus qu'à remercier, en prononçant ces mots qui ont cours dans l'archipel. Et manadndia, autrement dit, amen. Nous ne parlons que pour mémoire des cancrelats qui fourmillent à l'intérieur des paillotes, des fourmis blanches qui les dévastent, et des moustiques, des moustiques par milliards, dont on voit courir sur les murs, sur le sol, sur les vêtements des indigènes, d'innombrables phalanges. Aussi ne s'étonnera-t-on pas que Son Altesse, avec cet accent comico-britannique des clowns anglais, se soit exclamé, en voyant fourmiller ces formidables insectes, « Mustique, mustique !» Enfin, ni ses camarades, ni lui, n'ont eu le courage de pénétrer dans les cases fidjiennes. Donc, de ce chef, leurs études ethnologiques sont incomplètes, et le savant Frascolin lui-même a reculé, ce qui constitue une lacune dans ses souvenirs de voyage.